Alors pour commencer cette émission placée donc sous le signe de la musique, Noémie Berger, avocate au cabinet d'une, nous propose une chronique sur le thème de la musique et du droit. C'est la chronique Encode We Trust. Bonjour Noémie, est-ce que tu es bien avec nous?
Bonjour Étienne, bonjour à toutes et à tous.
Eh bien nous t'écoutons.
Merci Étienne. Alors la chronique de ce jour est consacrée à la musique et au droit. Le droit de la musique en d'autres termes. Les règles applicables à la création musicale et à l'exploitation de cette création vont se retrouver dans le Code de la propriété intellectuelle. On y trouve des dispositions communes avec les autres créations et des dispositions spécifiques. En France, il faut savoir que la musique est appréhendée sur le plan juridique par d'une part le droit d'auteur, qui correspond aux droits qu'ont les auteurs, et d'autre part aux droits voisins, qui n'ont rien à voir avec le domaine immobilier, mais qui sont bien les voisins des auteurs. Donc ce sont notamment les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes, les producteurs de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle. Dans le code de la propriété intellectuelle, on ne retrouve pas le terme musique à proprement parler. Mais à l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, on découvre que sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit les œuvres dramatico-musicales, à savoir les opéras, qui sont des œuvres littéraires et musicales, mais également les compositions musicales avec ou sans paroles, donc la musique instrumentale ou la musique chantée. Comme pour les autres œuvres protégées, je rappelle que les compositions musicales, pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, doivent être originales. Donc là, on a trois parties d'une composition musicale qui peuvent être protégées. La mélodie, c'est-à-dire l'air, le thème, l'harmonie, d'autre part, les accords des sons, leur enchevêtrement, la combinaison des sons qui sont perçus par l'oreille, et enfin les rythmes, les mesures, les cadences qui peuvent aussi être protégées. Alors, dans l'analyse de l'originalité, on voit toujours ressortir en place prépondérante la mélodie, qui est la plus évidente à caractériser. Ce sont toujours les juges qui reconnaissent l'originalité d'une œuvre lorsqu'elle est remise en cause dans le cadre d'un contentieux. Et je renvoie pour ça à la chronique que nous avions préparée sur l'originalité des œuvres. Et donc, il faut savoir que parfois, certains juges ne vont pas appliquer l'originalité de la même manière pour les compositions musicales et vont, pour déterminer si l'œuvre est originale, se fonder sur l'absence d'antériorité. C'est le critère de la nouveauté qui, normalement, n'est pas appliqué en droit d'auteur, mais ici, on le retrouve souvent dans les décisions de justice qui concernent la musique. Donc c'est vrai que la musique, elle est extrêmement large. On part du classique. Aujourd'hui, nous avons les musiques électroniques. Et c'est un domaine, en fait, dans lequel on retrouve aussi beaucoup d'œuvres dérivées. Donc ce sont des adaptations d'œuvres préexistantes. Leur définition juridique, elle est prévue à l'article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège, en fait, les œuvres dérivées de la même manière que les œuvres préexistantes. Et donc, c'est vrai que la protection par le droit d'auteur, donc je rappelle, elle permet de bénéficier de droits patrimoniaux, donc à l'auteur de pouvoir exploiter son œuvre, mais aussi de droits moraux, donc pour protéger l'œuvre. Ces droits moraux, elles sont attachées à la personne de l'auteur. À côté des auteurs, nous avons aussi d'autres acteurs de la musique qui bénéficient, comme je disais tout à l'heure, de droits voisins, à savoir les producteurs de phonogrammes, donc qui sont définis aussi dans le code de la propriété intellectuelle comme les personnes physiques ou morales qui sont à l'initiative et à la responsabilité de la première fixation d'une séquence de sons. On peut aussi trouver dans le droit de la musique les artistes interprètes qui vont interpréter une œuvre musicale. Et enfin, il y a un acteur dont on entend assez souvent parler, ce sont les sociétés de gestion collective. Donc elles ont en charge de collecter les droits d'exploitation et de les reverser aux auteurs. Et on en parle beaucoup parce que évidemment l'activité même des sociétés de gestion collective, elle a toujours été de temps à autre remise en question. Et elle l'a été récemment dans le domaine de la musique libre, il n'existe pas de définition légale de la musique libre de droit. On peut considérer que c'est un auteur qui va décider d'autoriser les tiers à exploiter son œuvre dans les conditions d'une licence libre. Mais ce qui est compliqué pour cet auteur, c'est qu'il va être confronté en fait au poids des sociétés de gestion collective auquel il ne va pas forcément adhérer. Et on a eu un cas de jurisprudence récente qui concernait la plateforme Jamendo et plus spécifiquement la société Saint-Maclou. Alors vous allez me dire, que fait la société Saint-Maclou spécialisée dans la décoration des sols, murs et fenêtres dans un sujet pour la musique sous licence libre? Eh bien, la société Saint-Maclou avait signé en 2009 un contrat avec l'éditeur de la plateforme Jamendo pour pouvoir diffuser de la musique libre de droit dans ses boutiques. Et deux sociétés de gestion collective ont poursuivi la société Saint-Maclou pour lui réclamer le paiement d'une rémunération équitable. Alors la rémunération équitable, elle est prévue par l'article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui en fait prévoit que l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce ouvre droit à une rémunération au profit des artistes, interprètes et des producteurs. Et donc sur ce fondement, les sociétés de gestion collective reprochaient à la société Saint-Maclou de ne pas avoir reversé de rémunération équitable, ce qui est évidemment contesté par la société Saint-Maclou, mais également par les éditeurs de la plateforme Jamendo. Devant la cour d'appel de Paris, eh bien, il a été fait droit aux demandes des sociétés de gestion collective, puisque la cour d'appel a considéré que la musique qui était diffusée dans les magasins devait être soumise à une rémunération équitable, même si leurs auteurs n'étaient pas adhérents des sociétés de gestion collective. Donc, la société Saint-Maclou s'est retrouvée condamnée à payer 120 000 euros au titre de cette rémunération. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation et la Cour de cassation s'est prononcée le 11 décembre 2019 et a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel considérant que la rémunération aurait dû être versée aux sociétés de gestion collective, tout en relevant que les auteurs pouvaient se rapprocher des sociétés de gestion collective pour toucher leur part de rémunération équitable, ce qui paraît en réalité vraiment totalement improbable. Et c'est vrai que cet arrêt, il a été beaucoup commenté et critiqué, hein, parce que c'est vrai que ben sa motivation en fait empêche véritablement les artistes d'émerger, d'exploiter leur musique comme ils le souhaitent. Et donc c'est vrai que ça reste quand même une restriction importante à la liberté, d'autant que ces sociétés de gestion collective, on leur reproche aussi de temps à autre des frais de gestion, une façon de gérer les fonds de manière un peu opaque. Et c'est vrai que voilà, cet arrêt, il aurait pu être rendu de manière différente. Bon, on s'attendait à quelque chose de différent, ça a été confirmé malheureusement. Et c'est vrai que voilà, c'est un contentieux qu'on voit de temps en temps ressurgir, et pour l'instant, ce qui n'évolue pas trop, mais on espère peut-être qu'à l'avenir, les choses vont évoluer. On sait que c'est le monde de la musique est en pleine mutation. On a les plateformes NFT avec, je rappelle que là-dessus, on avait fait une chronique sur les non-fungible tokens. On sait qu'il va y avoir des évolutions dans le domaine de la musique. Et voilà, on espère qu'un jour, le tournant va se faire de manière peut-être plus équilibrée pour tous ces acteurs. Et on retrouve, c'est vrai, le domaine de la musique est un domaine dans lequel les contentieux sont très variés, parce que vous pouvez avoir des sujets sur la rémunération des artistes, vous pouvez avoir des sujets sur le contenu de la pochette d'un disque, vous pouvez avoir plus récemment et à regret des fermetures de salles de spectacle au moment du Covid. Donc tout ça fait vraiment partie de la construction du droit de la musique. Alors voilà, malheureusement, on peut avoir des litiges, il y a des difficultés qui peuvent intervenir, mais bon, tout cela ne nous empêchera pas de nous amuser, et je souhaite à tout le monde, eh bien, une très bonne fête de la musique.
Merci beaucoup Noémie, et à toi de même, un bel été, une bonne fête de la musique. Merci pour ton analyse et pour ces réflexions effectivement très intéressantes, notamment juste avant d'échanger avec des artistes qui justement diffusent leur musique sous licence libre. Donc un grand merci à toi Noémie, puis donc une belle fête de la musique.
Merci, Étienne.
Et puis je vais profiter, puisque Noémie a beaucoup parlé effectivement des sociétés de gestion, je vais me permettre de rajouter une petite couche effectivement à la liste des qualités que Noémie leur a beaucoup citées, parce que l'April agit beaucoup au niveau donc de l'action institutionnelle, au niveau auprès des décideurs publics, des parlementaires. Et récemment, il y a un an maintenant, lors d'une proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, qui a touché un petit peu au précaré de ces sociétés société de gestion de droits, puisqu'elle concernait les biens, le réemploi de biens, les biens reconditionnés, et ça touchait à ce qui s'appelle la copie privée, qui est une manière pour eux de se financer. Et dans le cadre de ces débats, des députés ont parlé justement, on se sont publiquement exprimés en pleine assemblée, ce qui est rarissime, pour signaler la pression mise, voire les menaces exprimées par certains représentants de ces sociétés de gestion. Voilà, donc je me suis permis peut-être de rappeler aussi cette considération.